Radio Courtoisie,
indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Et la ligne droite, c'est avec David Engels. Bonjour David.
Bonjour Richard, merci pour l'invitation.
C'est normal, en plus c'est hebdomadaire. Voilà. Peu de sujets suscitent aujourd'hui une attraction aussi contradictoire, comme vous le dites, que la question des différences entre des individus et des groupes de population. C'est-à-dire d'un côté, il y a un consensus moral bien établi au fil des siècles qui rejette toute hiérarchisation biologique. Voilà, on est allé jusqu'à dire que les races n'existent pas. Et de l'autre, dans un monde marqué par les migrations, les disparités croissantes en matière d'éducation et l'essor de la génétique, malgré tout, voilà, les modèles biologiques explicatifs regagnent du terrain. Que faut-il en penser ?
Oui, tout à fait. C'est une tension qui apparaît très nettement dans le domaine de l'éducation. Dans plusieurs pays anglo-saxons, notamment les États-Unis, le débat sur les inégalités de résultats scolaires et universitaires a même conduit à des politiques de discrimination positive visant à offrir une admission préférentielle ou un soutien accru à certains groupes ethnoculturels afin de compenser des désavantages présumés. L'explication officielle fait référence à l'histoire, pourtant nombreux sont ceux qui préféreraient une lecture génétique. Ainsi, ces mesures désavantagent souvent des candidats hautement performants, dont le seul tort serait d'appartenir statistiquement à un groupe jugé favorisé, notamment les Asiatiques ou les Blancs, pour permettre alors l'inclusion de groupes jugés défavorisés, essentiellement les Afro-Américains. Ainsi, les instruments destinés à promouvoir l'égalité s'appuient sur les mêmes catégories identitaires qu'ils prétendent dépasser, mais en les inversant. Alors qu'il s'agisse de discrimination négative ou de quotas compensatoires, on réduit ainsi l'individu à son appartenance de groupe, qu'elle soit perçue en termes génétiques ou civilisationnels ou sociaux. La tentation de recenser statistiquement les différences pour les gérer politiquement supplante ainsi de plus en plus la valorisation de la réussite individuelle et de la responsabilité personnelle. À cela s'ajoute évidemment, vous l'avez dit, la popularité grandissante des études génétiques qui attribue en partie les différences individuelles de capacité à des facteurs biologiques. Ces recherches sont évidemment légitimes et souvent très fécondes sur le plan scientifique, mais elles inquiètent lorsque leurs moyennes statistiques sont élevées au rang d'explications culturelles, historiques ou même de principes politiques directeurs.
Alors, à quel sens se vouer pour faire évoluer les choses ?
Oui, eh bien, afin de concilier la diversité historique ou génétique réelle des personnes et des cultures avec l'affirmation d'une humanité commune, il suffit de se souvenir de l'anthropologie chrétienne qui offre une synthèse assez pragmatique, élaborée d'ailleurs depuis la fin de l'Antiquité, entre unité et différence. Tous les êtres humains possèdent une dignité égale, parce qu'ils sont créés comme personnes et non en raison de capacités ou d'acquis culturels identiques. Ainsi, le Concile Vatican II, réponse au péril des doctrines totalitaires, avait expliqué dans Gaudium et Spes, je cite, « Puisque tous les êtres humains possèdent une âme spirituelle et sont créés à l'image de Dieu, ils partagent la même nature et la même origine et sont destinés à la même vocation divine. Par conséquent, toute forme de discrimination sociale ou culturelle doit être éliminée comme contraire au plan de Dieu. Mais, ce texte fondateur de l'anthropologie ecclésiale moderne ne nie nullement les différences, mais les inscrit dans un fondement ontologique commun. Ainsi, le catéchisme de l'Église catholique confirme « Les différences entre les personnes font partie du dessein de Dieu, qui veut que chacun reçoive de l'autre ce dont il a besoin. » La diversité devient alors un élément structurel de la communauté humaine, pas quelque chose de nié. La variété des talents, des tempéraments, des constitutions physiques et des expériences historiques rend possible l'échange et la complémentarité et écarte à la fois l'égalitarisme nivellant, mais aussi l'hierarchie biologique. Benoît XVI l'avait d'ailleurs rappelé avec force quand il a dit, je cite, « Les êtres humains ne doivent pas être réduits à leur dimension biologique. Toute forme de déterminisme génétique qui explique les êtres humains uniquement par leur constitution génétique contredit la vérité sur la personne humaine. » De plus, d'ailleurs, contrairement à un préjugé très courant, la pensée chrétienne ne considère pas non plus les différences entre nations ou peuples ou civilisations comme des obstacles regrettables à surmonter, ni ne plaide pour des migrations de masse ou même un État mondial indifférencié. Le texte Caritas in Veritate insiste tout au contraire L'humanité est une famille, mais elle vit dans des cultures diverses qui représentent différentes expressions de la recherche de la vérité et du bien. Cette diversité ne doit pas être considérée comme une menace, mais comme un trésor qu'il faut entretenir et protéger. Et même le pape François, pourtant pas vraiment en odeur de sainteté d'un point de vue de la droite, expliquait dans Fratelli Tutti, je cite, « La mondialisation ne doit pas conduire à un nivellement qui détruit les richesses des cultures. Chaque culture possède ses propres valeurs qui ne doivent pas être effacées. Un monde qui ne respecte pas ces différences culturelles perd sa vitalité et sa capacité à une véritable rencontre. »
Alors, en effet, les différences sont là, elles sont indéniables. Mais même en mettant en avant la dignité égale des personnes, comment expliquer les immenses divergences, en fait, entre les civilisations sans tomber dans le biologisme?
Eh bien, vous ne serez probablement pas étonné que l'un des contre-arguments les plus clairs au simple réductionnisme biologique de l'histoire a été développé par notre cher Oswald Spengler, dont l'œuvre a vu le jour précisément à une époque où les théories sur les hiérarchies raciales étaient encore très très répandues. Pour rappel, au XIXe siècle, les auteurs tels que Gobineau soutenaient que l'histoire était en fin de compte le résultat de différences raciales. Ainsi, dans son essai sur l'inégalité des races humaines, Gobineau avait formulé cette déclaration programmatique, je cite, « Toute civilisation provient de la race blanche, aucune ne peut exister sans la contribution de cette race, et une société n'est grande et brillante que dans la mesure où elle préserve plus longtemps le groupe noble qu'il a créé, et où ce groupe lui-même appartient à la branche la plus illustre de l'espèce. » Fin de citation. Alors cette notion fut par la suite radicalisée par des idéologues tels que Houston Stuart Chamberlain ou Alfred Rosenberg, qui intégrèrent à cette suprématie blanche de Gobineau leur propre antisémitisme radical. Spengler, en revanche, s'opposa violemment à ce réductionnisme. Pour lui, une culture n'est pas le résultat d'une particularité biologique, mais un phénomène historique qui s'organise autour de l'apparition d'un archétype psychologique particulier, inséparable d'un paysage naturel spécifique et produisant lui-même toutes les réalités ou tous les idéaux religieux, culturels, sociaux, économiques et politiques qui distinguent une civilisation, y compris, bien évidemment, un idéal anthropologique particulier. Alors certes, cet idéal anthropologique se déploie sur base d'une réalité biologique, que Spengler est loin de nier, mais pour lui, son essence réside davantage dans des choix matrimoniaux esthétiques, dans les conséquences biologiques d'un certain style de vie, et surtout la volonté des individus de se recréer eux-mêmes de manière volontariste selon une certaine typologie idéale, plutôt donc que dans une vulgaire mécanique génétique. Ainsi, Spengler ne niait pas l'existence de différences physique entre divers groupes d'êtres humains, mais il avait tendance à considérer les races plutôt comme le résultat de la force créatrice inhérente à chaque civilisation, donc à peu près ce que Ibn Khaldoun allait qualifier ou avait qualifié en son temps d'Asabiya, que l'inverse. Ainsi, pour citer Spengler, mais lorsque nous parlons ici de race, nous ne l'entendons pas au sens où l'entendent actuellement les antisémites en Europe et en Amérique, c'est-à-dire dans un certain darwinien, dans un sens darwinien et matérialiste. La pureté raciale est un terme grotesque, étant donné que depuis des millénaires, toutes les tribus et tous les peuples se sont mélangés et que les nations belliqueuses, c'est-à-dire saines et prometteuses, ont toujours été désireuses d'assimiler un étranger s'il était de la bonne race, quelle que soit la race à laquelle il appartenait. Ceux qui parlent trop de race l'ont perdu. Ce qui importe, ce n'est pas la race pure, mais la race forte dont dispose un peuple. Citation de Spengler donc. Cette affirmation signifie que les grandes civilisations ne naissent pas d'une supériorité génétique, mais d'une volonté active d'embrasser le destin, de la capacité à créer un monde symbolique partagé et de la disposition à façonner activement l'environnement en fonction des préférences esthétiques, intellectuelles, anthropologiques ou physiques propres à la civilisation en question. L'Égypte, la Chine, l'Inde, Sumer ou l'Europe ont développé leur propre forme culturelle et donc leur propre race dans des conditions climatiques et historiques différentes, sans qu'il soit possible d'en déduire une explication biologique simple. Ainsi, Spengler a déplacé le concept de race du domaine de la biologie vers celui de la culture. Et même si la théorie des cycles historiques de Spengler et son élitisme nietzschéen ne sont pas sans poser certains problèmes historiques, Sa critique du biologiste reste une indication importante selon laquelle, même pour ceux qui croient en la différence fondamentale et en même temps en l'égalité, mais non pas l'identité, entre les civilisations humaines, l'histoire ne peut être réduite à des données purement physiologiques.
Alors, comment est-ce qu'on peut conclure ?
Eh bien, les analyses de Spengler, auxquelles on pourra ajouter les analyses aussi de Toynbee ou de beaucoup d'autres philosophes de l'histoire, dont l'histoire comparée, montrent que les grandes civilisations émergent essentiellement d'impulsions intellectuelles, psychologiques, symboliques, religieuses, liées à des paysages ou à des archétypes mentaux, et non d'une simple programmation génétique. Ceci explique aussi pourquoi, une fois la force créatrice d'une civilisation éteinte, aucune homogénéité génétique ne peut l'aider à vaincre son déclin. L'immigration de masse et le grand remplacement de population, que connaissent toutes les civilisations à leur fin, apparaissent plutôt comme des conséquences d'un épuisement culturel préalable que comme son origine monocausale. L'anthropologie chrétienne complète cette vision civilisationnelle, plutôt que biologiste donc, par l'affirmation de la dignité qui distingue non seulement chaque personne humaine, mais aussi ses différentes créations civilisationnelles. Comme l'explique d'ailleurs Centesimus Annus, je cite, « La culture est l'élément déterminant de la vie d'un peuple. Sans culture, un peuple perd son âme et son avenir. » Fin de citation. Élever la recherche génétique au rang de monopole interprétatif pose donc problème, car ces découvertes ont une valeur scientifique, mais leur portée historique dépend du cadre culturel qui les accueille. Certes, les grandes civilisations sont régulièrement en lutte, les unes avec les autres, pour faire triompher leurs idées, mais il serait faux d'interpréter cette lutte de manière génétique au lieu d'une manière spirituelle. Chaque culture a le droit, même le devoir, de défendre sa spécificité et son originalité contre toute menace de subjugation ou de remplacement, mais non pas sur base d'une prétendue supériorité raciale, mais du droit au libre développement de son authenticité et de sa dignité, de vouloir créer et garantir son propre chemin unique menant vers la transcendance.
Son propre chemin. Merci beaucoup David Engels et à la semaine prochaine.
Avec plaisir. À lundi prochain.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour l'analyse, c'est avec Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. Bonjour Régis.
Bonjour Richard.
Alors voilà, revenu en Europe, voilà, puisque vous étiez parti faire un tour dans l'Orient compliqué. Quelles premières impressions rapportez-vous de ce voyage ?
Alors, premières impressions, il y en a beaucoup. C'était mon deuxième, d'ailleurs, depuis le début, depuis le 2 mars, début de la guerre au Liban et en Iran, évidemment. Ce que j'ai trouvé très impressionnant, enfin, c'est l'état du sud Liban, l'état des dégradations, l'ampleur des destructions qui ont eu lieu dans cette partie du monde. En particulier, je vais dire tous les villages que j'ai dans lesquels on est passé. En fait, on suivait l'association que vous connaissez bien, SOS Chrétiens d'Orient, qui d'ailleurs travaille avec d'autres associations sur place pour ravitailler les zones chrétiennes, pas exclusivement, mais qui dont le travail justement est de venir en aide à ces populations. D'abord, les gens, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui restent dans les villages, dans ces endroits-là, sont des personnes âgées essentiellement. Les besoins sont immenses, surtout du point de vue des médicaments, parce que ils n'ont pas forcément, parfois il n'y a plus de toubib, il n'y a plus de pharmacie, tout a été détruit ou c'est plus accessible. Et souvent, ces villages se retrouvent enclavés dans des zones de combat entre des villages chiites, soit tenus par la milice Hamal, soit tenus par le Hezbollah, et donc dans des zones de combat, et il n'y a pas forcément de vivre tout simplement. Et en fait, les associations donc se déplacent, prennent le risque de se rendre dans ces zones, parfois tout près de la frontière avec Israël et de cette fameuse ligne jaune. Donc on entend les combats, parfois la route est bloquée. Nous, on est arrivé juste après une frappe et on est obligé d'attendre que le bulldozer dégage la route pour pouvoir continuer notre périple avec les ambulances qui arrivaient. Enfin bref, c'est des scènes où d'abord les ambulances sont prépositionnées partout dans la campagne et puis vous traversez donc ces fameuses zones du Hezbollah où les militants sont très présents. Hein. Parfois les voitures se font arrêter, on s'est fait arrêter une fois, vérifier ce qu'on filme, etc., etc. Donc en fait, c'est un véritable, c'est le territoire du sud Liban. Pas en majorité, si vous voulez, mais au moins la moitié, est la partie la plus sud, est un territoire de guerre totale, quoi, avec des populations civiles et avec des destructions sur des centres commerciaux, des boutiques, parce qu'en fait, la population vit là. Ce qu'on entend souvent avec le Hezbollah, c'est oui, il faut éradiquer ces terroristes pro-iraniens. Le problème, c'est que quand on le dit ça sur le papier, soit, voilà. Mais en réalité, le Hezbollah est né dans cette partie du Liban entre 1982 et l'an 2000, quand elle était occupée par Israël. Et il est né de cette résistance à Israël, donc c'est son territoire. Mais son territoire, c'est pas simplement il amène des combattants pour défendre.
Parce que il faut le rappeler, entre 1982 et 2000, Israël avait déjà envahi le Liban. Et donc c'est dans la zone occupée par le...
Voilà, que le Hezbollah est né.
Voilà, donc c'est pas un bout du Liban au hasard. Non. C'est le Liban qui n'appartenait plus au Liban.
Tout à fait, mais c'est un mouvement, si vous voulez, qui est issu de cette région. Souvent, on dit terroriste, on pense Daesh. Daesh, c'est souvent un élément qui s'ajoute, qui vient conquérir, qui parfois est organisé par des personnes locales, mais souvent, c'est des combattants étrangers, ou des gens qui viennent dans une attitude de conquête. Là, c'est pas du tout. C'est le territoire des chiites libanais. Les chiites libanais représentent 30% de la population au Liban. La plus grande représentation de chiites au Liban, c'est le Liban Sud. Et donc, si vous voulez, quand on veut éradiquer le Hezbollah, ça veut dire qu'il faut peut-être éradiquer femmes, enfants, vieillards, parce que tout le monde, en fait, finalement, participe de cette lutte, et le Hezbollah est comme un poisson dans l'eau là-bas. C'est ça qu'on a du mal à comprendre, et quand on va sur place, on comprend comment toute la vie est organisé finalement autour de cette résistance, et en ce moment encore plus avec, on va dire, la poussée israélienne qui vient prendre 10 kilomètres à l'intérieur du Liban, comment Israël lui-même sait parfaitement toute la réalité que je vous décris là. Son but est de repousser ces populations au maximum, de les maintenir à l'écart, et de créer une zone où plus personne n'habite. C'est ça.
En même temps, il y a quelque chose d'un peu contradictoire dans la politique israélienne. Alors, d'une part, effectivement, il y a un glacis militaire de 10 kilomètres avec une destruction absolument totale. Les bulldozers arrivent par dizaines depuis les États-Unis pour remplacer ceux qui ont été épuisés à force de raser les villages. Mais s'il s'agit de détruire le Hezbollah, le fait de repousser la population chiite plus loin ne va pas du tout détruire le Hezbollah. On va juste créer une nouvelle zone hezbollienne, si j'ose dire. Et d'ailleurs, on a l'impression que c'est exactement, d'une certaine manière, la tactique un peu bizarre d'Israël. C'est-à-dire, on commence par conquérir 10 kilomètres, et puis après, on commence à bombarder la zone au-delà des 10 kilomètres qui était censée être la zone de sécurité. Autrement dit, tant que je repousse les combattants du Hezbollah et la population acquise à leurs idées, je peux me permettre d'aller du Liban Sud jusqu'au Liban Nord en expliquant qu'il y a toujours un combattant du Hezbollah qui est de l'autre côté.
C'était ce qu'avait dit à l'époque, il n'y avait pas le Hezbollah, mais dans ses mémoires de guerre, Ariel Sharon expliquait que quand il a conquis le Liban Sud, il y avait une colline avec des types qui leur tiraient dessus depuis le haut de la colline. Ils prenaient la colline, il y avait encore des types qui leur tiraient dessus depuis la colline suivante, etc. Et qu'ils avaient fini par arriver jusqu'à Beyrouth en appliquant cette technique. Là, c'est un peu plus compliqué. Disons que les types qui tirent depuis le haut de la colline ont creusé des tunnels à l'intérieur de la colline et ils se sont complètement camouflés. Ce qu'il faut imaginer, c'est que d'abord, parfois ce ne sont pas des collines, ce sont presque des montagnes, que les routes sont absolument escarpées, que vous avez des vallées très profondes avec un tissu urbain très massif dans lequel il est difficile effectivement de dire qui est un civil, qui est un combattant, comme je vous l'expliquais. Et puis tout à coup, des zones vertes qui aussi sont de toute façon traditionnellement pour tout militaire, une zone verte, c'est une zone très dangereuse parce que il y a une possibilité de se camoufler dans la végétation. Et là, c'est très difficile de pénétrer ce territoire. Le Hezbollah, les Israéliens appellent certaines de ces zones la jungle du Hezbollah. C'est parce qu'ils connaissent très bien. Ils sont venus donc 82-2000, se sont retirés en 2000. Il y a eu la guerre de 2006 où ils ont à nouveau fait une incursion et à nouveau ils se sont retirés. Là, en l'occurrence, ils ont décidé de rester en détruisant. Mais vous avez raison. Le vrai Le vrai problème, le vrai défi qui est posé au Liban aujourd'hui, c'est qui assure la sécurité du Liban? C'est certainement pas l'armée libanaise. Moi, je l'ai vu, l'armée libanaise au Liban Sud, elle garde des intersections, elle patrouille à peine, comme la Finul. Hein. La Finul, elle se déplace dans des engins blindés tout blancs avec marqué UN dessus, et de temps en temps, on les voit, et puis... mais on les voit pas patrouiller, ils font des périples, ils sont un peu, si vous voulez, comme des... c'est un peu pour Israël comme pour le Hezbollah, le baltrap, quoi. C'est en fait, tiens, ou l'élément gênant, il vient gêner. Mais dans les faits, ils ne font que constater l'activité militaire qui a lieu là, et on sent très très bien que l'armée libanaise, d'abord, elle a des chars, l'armée libanaise, on en a vu sur les routes, mais ils sont camouflés dans des endroits où il n'y a pas de combat, et ils sont, on va dire, l'armée libanaise est sur disons, dans une position ultra sensible, où elle cherche parfois à se faire plus discrète. C'est très intéressant, j'ai assisté à des scènes au milieu des villages, où vous avez des combattants, je me souviens, c'est un village qui était tenu par la milice Amal, donc la milice rivale, amie du Hezbollah, chiite, mais laïque, dirigée par Nabih Berri, donc qui est chef du Parlement, mais il a chef du Parlement au Liban à sa milice, hein, c'est quand même assez intéressant de constater ça. Et puis vous avez donc les types de Amal qui sont au milieu du village, avec les portraits de ceux qui sont morts tout autour, comme dans la zone Hezbollah, pareil, donc ils avaient des portraits des morts partout, et ils regardent, ils sont là, ils attendent, ils gardent leur village, et puis dans un coin, vous avez un Humvee, un véhicule militaire de l'armée libanaise, avec deux soldats qui sont là, c'est tout juste, vous regardez l'attitude des soldats, c'est un peu, est-ce qu'on peut rester là, ça va, on vous dérange pas, voilà, c'est assez terrible de voir ces images-là, parce que quand on constate à côté tout le poids qui est mis sur l'armée libanaise dans l'idée de, ok les gars, vous allez désarmer le Hezbollah, c'est vous qui allez le faire, et on leur met la pression, et on met la pression sur le gouvernement, alors que factuellement, l'armée libanaise ne peut pas désarmer le Hezbollah. C'est une milice bien trop puissante, qui d'ailleurs, dans sa guerre avec Israël, est en train de marquer des points. C'est intéressant ça, parce que le Hezbollah reprend des techniques utilisées en Ukraine par les Ukrainiens pour se défendre contre les Russes, et notamment l'introduction du drone filo-guidé avec des fibres optiques, qui en ce moment pose un vrai, vrai problème à Israël, parce que ces drones sont très performants, les dronistes du Hezbollah sont extrêmement aguerris, extrêmement formés, à la différence d'autres milices. On voit très bien dans les vidéos qu'ils sont en train de produire, ils en produisent tous les jours, où ils montrent qu'ils vont taper des engins de transport de troupes israéliennes, des Merkava, ils arrivent dans des endroits, choisissent minutieusement leur cible, et ils vont, et la cible, c'est assez, assez inquiétant même du point de vue israélien, parce que ils s'aventurent dans ce territoire qui, encore une fois je le rappelle, est le territoire de naissance du Hezbollah, donc il est vraiment là chez lui, et en plus le Hezbollah a copié la guerre en Ukraine pour montrer que finalement le plus faible était capable de résister. On l'a vu avec les Ukrainiens, là on est en train de le voir avec le Hezbollah.
Alors, en plus, revenons brièvement sur ces drones et ces essaims de drones. Ces drones filo-guidés, c'est parfois 30 km de fibre optique.
Oui,
autrement dit, bah, là, c'est pas le type qui vous tire dessus depuis la colline. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas qui, à 30 km, est capable de vous attaquer.
Oui, donc ça veut dire que si vous continuez à opérer des destructions, vous allez forcément arriver à un taux de massacre. Alors bon, certains l'assument. Israël Katz, le ministre de la Défense israélienne, parle de... n'hésite pas à faire la comparaison avec Gaza. Est-ce que Israël veut vraiment détruire le sud Liban comme il a détruit Gaza? C'est ça la vraie question aussi. Le coût au niveau de l'image et le coût en perte de crédibilité, y compris auprès des Américains, avec Gaza, est énorme pour Israël. Et ça, c'est un souci énorme, beaucoup plus important peut-être que le Hezbollah, le Hamas et d'autres, et même l'Iran, c'est-à-dire la perte de confiance qu'avaient les Américains, en particulier les jeunes Américains, en Israël, et aujourd'hui le fait que la cause palestinienne dépasse la défense d'Israël auprès de beaucoup d'Américains, ça, c'est une nouveauté.
Sondages aux États-Unis montrent que, comme partout ailleurs dans le monde, la cote de popularité d'Israël descend, et d'ailleurs, indépendamment du fait qu'il s'agisse de Netanyahou ou pas.
Tout à fait, et là, il y a un élément élément aussi important, c'est que autant les Palestiniens n'ont pas ou très peu de diaspora, autant les Libanais ont une diaspora énorme. Alors vous me direz, elle est majoritairement chrétienne, elle est plutôt bien disposée vis-à-vis d'Israël, on va dire en partie, mais si les circonstances les événements désastreux se perpétuent au Liban, c'est clair que le problème va plus être le Hezbollah. Quand vous avez le village de Yaroun, alors polémique, est-ce que le monastère le couvent des sœurs a-t-il été détruit ou pas? Ce que je sais, moi, de la part d'SOS Chrétiens d'Orient que j'ai accompagné au Liban, c'est que eux avaient participé à la réfection de la salle paroissiale du village de Yaroun. L'église n'a plus de toit, l'église a été détruite, tout est détruit autour, y compris la salle paroissiale. Donc il y a des
C'est-à-dire que quand même le Hezbollah, c'est censé être des combattants chiites. Oui. Et là, pour le moment, avec la manière dont Israël nous parle de sa sécurité et de ses attaques ciblées, ils sont en fait en train de ravager le sud Liban, maison par maison, puits par puits, route par route et pont par pont, sans nous expliquer qu'à chaque fois, ils ont visé un combattant du Hezbollah. Ou plutôt, ils nous expliquent qu'à chaque fois, il y a des combattants du Hezbollah. Mais là, ça paraît un peu bizarre qu'il y ait autant de combattants du Hezbollah au mètre carré.
Alors moi, ce que j'ai pu constater, c'est que les deux utilisent les chrétiens. Les deux, c'est-à-dire le Hezbollah utilise les chrétiens en sachant que les villages chrétiens sont moins ciblés que ses propres villages à lui, enfin les villages chiites qui sont en général tout autour, hein, vous avez des communautés chrétiennes qui sont complètement enclavées, le village de Sabra par exemple dans les hauteurs de Saïda, tout autour c'est des villages chiites, et donc vous avez un village chrétien au milieu qui est essentiellement composé, je vous disais, de personnes âgées, assez isolées, ou de gens qui sont dans l'agriculture, mais forcément si Israël vise les villages chiites où sont présents les hommes du Hezbollah, le village chrétien va recevoir des tirs à un moment. Et le Hezbollah lui-même va utiliser comme base arrière le village chrétien. On le voit très bien, par exemple, par le fait que, vous savez, depuis l'affaire des beepers, le Hezbollah, depuis l'affaire des beepers et l'élimination de la plupart des cadres historiques du mouvement, essentiellement à cause de ça, le Hezbollah a arrêté complètement l'utilisation par ses combattants de ce type d'instruments et s'en est revenu à une communication faite à partir de scooters, c'est-à-dire de courriers humains, quoi. C'est-à-dire on va prévenir.
Des estafettes, comme on disait en 14-18.
Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on a été arrêté, c'est un type qui nous a repéré, qui a vu qu'on était en train de filmer, il était en scooter et il est allé prévenir. Il n'a pas pris son téléphone portable pour dire au mec suivant, il est allé prévenir lui-même, vous voyez. Donc ils n'utilisent plus ça. Et quand on a une des questions, justement, le type du Hezbollah nous a dit si vous utilisez les ondes, ils vont vous cibler, les Israéliens vont vous cibler. Et vous voulez surtout vérifier qu'il n'y ait pas les visages, qu'on n'ait pas pris de visages de combattants. Ça, c'était... Donc, parce qu'ils savent que les Israéliens sont très forts, qu'ils ont des logiciels de reconnaissance, qu'ils peuvent déterminer qui est qui, etc. Et donc, ils s'en remettent à quoi? Ils s'en remettent donc au courrier humain, à l'estafette, comme vous dites, et également aux câbles de communication qu'on voit dans les villages. C'est-à-dire quand les combattants sont partis, on voit qu'il reste les câbles. Il y en a parfois par terre, des câbles de communication, la transmission à l'ancienne. Donc, ils en reviennent à des principes archaïques et ils utilisent certains villages plus au calme, effectivement, pour installer leur transmission, en fait. Donc, c'est très intéressant. Et les Israéliens aussi vont jouer là-dessus, en disant le Hezbollah se cache. Donc, parfois, ils ciblent un village chrétien. C'est pas délibéré, mais bon, il y a quand même des cas. Moi, je me souviens un village qu'on a visité, pas très loin du village chiite de Khiam, où il y a énormément de combats, dans la zone de Marjayoun, un village qui s'appelle Ebel al-Saki. Et Ebel al-Saki, le maire est venu nous expliquer, on a été accueillis par la population, que 400 hectares de la commune avaient été réquisitionnés pour la fameuse ligne jaune, 400 hectares, c'est énorme. Donc, des gens ont perdu une partie de leur ferme située dans ces endroits-là, des champs, etc. C'est des communes rurales. Et ils étaient désespérés parce qu'on leur prive. Voilà. Donc, ça, c'est un village chrétien
amputé.
Exactement,
comme Israël fait en Palestine.
Non, mais
voilà.
Exactement. Mais on ne peut pas dire qu'il y a des chiites. Hein. Il y avait des druzes. Il y a un peu de druzes dans ce village. Mais c'est majoritairement, massivement chrétien. Et donc, 400 hectares de ce village. Je vous parle de termes concrets. Hein. Je ne vous dis pas. Après, vous pourrez toujours trouver un communiqué de Tzahal expliquant que oui, nanana. Non, là, c'est un village chrétien à qui on ampute 400 hectares. Et donc ça, voilà, c'est ça la réalité, parce que c'est un combat à mort, parce que le Hezbollah cible avec ses drones ou avec ses missiles les équipes de secours israéliennes qui, quand il y a des blessés, viennent les chercher en hélicoptère. Le Hezbollah est très fort là-dedans. Donc du coup, par exemple, Tebnin, qui était un village qu'on a visité avec le père Marios, qui est le curé du village, nous a montré son église. L'église n'a pas été touchée. Il y a eu des bris de verre, des vitres qui ont été sans doute pulvérisées par le souffle des explosions, parce qu'elles sont très proches. Et l'église Saint-Georges, donc du père Marios. Ensuite, on est descendu et on est passé à côté de l'hôpital. Et l'hôpital venait de se faire frapper et il a été refrappé le lendemain. Bon, c'est un centre de la Croix-Rouge. Vous vous dites, mais en fait, après, vous décryptez le truc et les combattants du Hezbollah vont se faire soigner là, quoi, vous voyez. Donc, c'est toujours comme ça. C'est une guerre à mort entre deux adversaires qui se livrent un combat asymétrique et combat dans lequel Israël semble avoir l'avantage, mais c'est toujours le problème aujourd'hui. Vous voyez, les États-Unis avec l'Iran semblaient avoir l'avantage, et en fait, au final, c'est pas eux qui gagnent. Et le fait que le plus faible se maintienne est souvent gage de victoire à la fin, quand le fort décide de se retirer. Vous voyez, c'est ce qui se passe toujours avec le Hezbollah. La définition de la victoire au Moyen-Orient, c'est pas on écrase l'adversaire, on fait une parade militaire en traînant son chef dans une cage. C'est pas Vercingétorix avec Jules César.
Ou Trump avec Maduro.
Voilà, mais c'est... Ouais, exactement. C'est la définition de la victoire au Sud-Liban, c'est quand celui qui reste garde le territoire, et c'est ce qui est arrivé plusieurs fois avec le Hezbollah, et c'est comme ça qu'il a fait sa légende. Alors, en ce moment, il indispose pas mal de Libanais, parce que c'est lui qui est entré en guerre le 2 mars contre Israël. C'est lui, en 2024, qui aussi avait repris les armes après le 7 octobre contre Israël. Donc, il entraîne le Liban dans la guerre à chaque fois, mais certains chrétiens donc le déplorent. Les chrétiens sont très partagés à cause de ça, et certains disent aussi, bon, faut reconnaître que s'il n'y avait pas le Hezbollah, Israël serait à Beyrouth. Voilà.
Alors, vous parliez tout à l'heure de l'Iran et de Trump. Alors, on sait que depuis quelques jours, il y a cette tactique des Américains de faire en sorte d'assécher les marchés iraniens. Mmh. Voilà, le pétrole iranien ne peut plus s'exporter. L'Iran perdrait 400 millions de dollars par jour de recettes. Donc, le pays va mal. Les gens sont de plus en plus au chômage. L'inflation grimpe. Bon, à côté de ça, on a encore des images qui arrivent où, au contraire, les gens marchent dans la rue et sont à la terrasse des cafés, y compris des femmes qui ne sont pas voilées. Donc, on sent bien que plusieurs narratifs et plusieurs de nos questions, de nos projections sur la société iranienne sont prises en défaut. Néanmoins, dernier soubresaut, on nous explique que 15 000 soldats américains vont débarquer en Iran, qu'il faut que certains des terminaux pétroliers vont être pris d'assaut. Autrement dit, qu'on va faire en sorte de débloquer absolument Hormuz. Et donc, nouvelle offensive militaire, pour le coup, pas au sol, mais une offensive maritime pour faire en sorte de faire sauter l'un des derniers outils de négociation des Iraniens, le blocage du détroit d'Hormuz.
Alors, oui, c'est le fait que... Moi, je vois dans ces signaux des choses qu'il faut analyser très précisément. C'est-à-dire que il y a la rhétorique de part et d'autre. Je vous signale que depuis le cessez-le-feu, qui dure depuis 20 jours, les États-Unis, par la voix de Pete Hegseth et de Donald Trump régulièrement, nous expliquent à chaque conférence de presse que l'Iran est anéanti, que son armée n'existe plus, son aviation, sa marine, etc., elle est au fond de l'eau. Bon, si c'était le cas, on se doute bien que les Américains n'auraient aucun problème pour mettre à bas le régime. Et visiblement, si ce régime est toujours capable de maintenir le blocus sur Hormuz, c'est qu'il n'est pas complètement détruit. Donc il y a des choses comme ça quand même qui défilent, comment on va dire, qui sont de l'ordre du bon sens. Et le fait que Trump, là, ce matin, annonce que des navires américains vont escorter des bateaux dans le détroit d'Ormuz, montre quand même que le détroit d'Ormuz lui pose singulièrement un problème. Parfois, il dit on n'en a pas besoin parce que nous, Américains, bon, vous savez le prix du pétrole, de l'essence aux États-Unis en ce moment ?
Je crois que ça a dépassé les 4 dollars et quelques.
Les 4,3 dollars, le gallon, donc unité, je ne sais pas comment ça fait un gallon, mais enfin, en tout cas, c'est...
Oui, enfin bref, l'unité de base à la pompe voilà, aux États-Unis.
Aux États-Unis, et quand les Américains deviennent hystériques dès que ça dépasse les 4 dollars. Donc là, c'est un vrai problème, parce que le flux du pétrole et les marchés mondiaux contraignent les prix à monter, même aux États-Unis. Donc Trump a beau nous expliquer qu'ils n'ont pas besoin d'Ormuz, si, ils ont besoin d'Ormuz, il est en train de nous expliquer que non, qu'on va finalement faire ce blocus et mettre l'Iran à genoux. Et visiblement, ça ne suffit pas, parce que donc il décide à nouveau d'envisager la saisine de l'île de Karg et un débarquement américain. Là, il explore la possibilité d'envoyer des destroyers escorter les bateaux. Toute cette cacophonie nous montre qu'il est dans une situation très embarrassante et que le chrono ne joue pas pour lui mais contre lui, que les marchés sont très volatiles, que en général, là, il a dit aujourd'hui, on est lundi, il dit oui, les discussions avec l'Iran avancent très bien, vous voyez. Et le vendredi, c'est des menaces parce qu'il n'y a pas de cotation le lendemain. On sent bien qu'il y a à chaque fois, avec des gens qui guettent ces signaux pour savoir s'ils vont acheter ou vendre sur les bourses, il y a un peu du délit d'initié, mais quand on a compris la logique de Trump vis-à-vis des marchés, on peut arriver à faire des fortunes en bourse. Mais je vous rassure, ce n'est pas mon cas, je n'y connais pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est un... Voilà.
Nous voilà rassurés, vous êtes un homme intègre.
Voilà.
La preuve est faite, Régis l'a enfin dit.
Et je ne profite pas de la situation, voilà, surtout. Mais c'est Trump qui est très... Trump est plus embarrassé et prend beaucoup plus de risques que les Iraniens. Pareil, c'est pareil que le Hezbollah. Les Iraniens, même s'il y a une intervention, même si, les Américains arrivent à détruire des choses, etc. D'abord, l'Iran peut à son tour détruire aussi beaucoup de choses encore en Arabie Saoudite, des pipelines, et encore créer une crise beaucoup plus importante, crise structurelle sur l'outil de production, sur les marchés, et donc finalement handicaper le monde beaucoup de façon... Parce que là, on est dans une phase qui est plus une phase de blocage que de destruction. Ça, c'est important de le rappeler. Et puis ensuite, on est dans un... et Trump, il y a les élections de mid-term, il y a les pressions sur les prix. Au niveau international, c'est toute l'Asie qui est beaucoup plus touchée que nous, d'ailleurs, au niveau du pétrole, mais l'Europe s'étant elle-même tirée aussi une balle dans le pied en se privant volontairement du pétrole et du gaz russe, je vois pas où on va trouver l'alternative. Et vous voyez qu'aux États-Unis,
on achète en Afrique là pour le moment.
Oui, pour le moment nous ça va, mais il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus à risque. L'Italie était très dépendante du gaz du Qatar. Pose d'énormes problèmes. Et au niveau des compagnies aériennes, la première compagnie, cette fois américaine, une compagnie low cost ce week-end a déposé le bilan. On parle de risques sur Delta Airlines qui supprime des milliers de vols. Si on commence à voir des compagnies aériennes en cascade déposer le bilan, mettre la clé sous la porte, la pression, elle est là, elle n'est pas... l'Iran, ça fait 47 ans qu'ils sont sous sanctions. Ils peuvent tenir un an, ils peuvent tenir plusieurs années. C'est pas ça qui va les déranger. On comprend bien que, et je pense que Donald Trump lui-même l'a compris, qu'il avait, il s'était attaqué à quelque chose peut-être qu'il n'avait pas envisagé aussi compliqué.
Effectivement, on a dépassé les 60 jours de conflit. Il y a 2 mois, on expliquait que si l'Iran tenait 4 semaines, ce serait déjà une victoire. On est véritablement dans un temps différent. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, pour cette analyse, et merci beaucoup pour celle que vous nous donnerez la semaine prochaine, bien évidemment.
Avec plaisir.
Ligne droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour, Gilles. Voilà, prends le temps de t'asseoir.
Bonjour.
Alors,
je suis à l'antenne, comme disait l'autre.
Oui, et le rapport à l'oncle n'est pas encore publié, et donc le citoyen lambda n'y a pas accès, mais vous avez, Gilles, lu la presse.
Oui, et ce fameux rapport sera disponible à partir de demain, hein, attention. Et donc le Figaro publie ses propositions, et Amélie Ruhlmann, qui a lu le rapport, cite la trilogie véhiculée un temps par le RTF, reprise par Charles Lalonde, que vous vous souvenez. Informer, cultiver, divertir, c'est tout votre programme, mon cher Richard.
Et c'est toute ma jeunesse.
Votre jeunesse aussi. Pour définir, à l'époque où il y avait un ministre de l'Information, pour définir la mission de l'ensemble composé de France Télévisions, Radio France, Arte France, France Média Monde. Alors France Média Monde, c'est France 24, RFI, TV5 Monde, et l'INA, donc l'Institut National de l'Audiovisuel, notre mémoire à tous. La journaliste écrit que Charles Lalonde propose une série de mesures pour reprendre en main donc ce service public, assurer sa neutralité, limiter ses coûts. Objectif, 1 milliard d'euros d'économie, soit plus d'un quart du budget de l'audiovisuel, dont il veut utiliser la moitié pour doubler les crédits du programme budgétaire consacré à l'entretien du patrimoine et l'autre pour désendetter l'État. Alors parmi les mesures, il recommande de fusionner France 2 et France 5, France Info et France 24, les réseaux France 3 Région et ICI, alors ICI vous savez c'est la nouvelle marque de France Bleu, et de supprimer France 4, Le Move et Slash. Il veut aussi réduire de trois quarts le budget des jeux et des divertissements de France Télévisions et d'un tiers son budget sport. Il veut sanctuariser les trois grandes compétitions phares du service public, Tournoi Destination, Tour de France et Roland-Garros, et céder les autres chaînes privées si elles les diffusent en clair. Comme il souhaite aussi que les éditorialistes viennent de la presse d'opinion pour mieux les identifier. Alors, la presse écrite, hein, et qu'il ne soit pas
uniquement
de
gauche. Comment ça, pas la presse radio ?
Ben non, il considère qu'il faut justement des éditorialistes qui ne soient pas uniquement de gauche et que les Français sachent d'où ces éditorialistes du service public parlent. Alors, le service public doit être une agora, j'aime bien le mot, permettant la confrontation d'idées. Ce n'est pas en ayant un seul éditorialiste politique sur le service public qu'on honorera cette belle mission de pluralisme. Bien sûr, il vise... Pas tout, bah oui, Patrick Cohen, qui est le matin sur France Inter et le soir sur France 5.
Voilà, pas tout, si tu nous écoutes, on est de tout cœur avec toi. Alors, il y a une autre mesure qui fait grincer plus d'une dent et qui rappellera les grandeurs du sarkozysme, citation, Charles Lalonde propose que les dirigeants de l'audiovisuel public soient nommés par le président de la République.
Eh oui, mais après avis des commissions des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, et du Sénat, et après avis conforme de l'ARCOM. Alors le mode de nomination actuel par décision du collège de l'ARCOM à huis clos s'opère dans une opacité totale et une absence de démocratie, dénonce le rapporteur. Celui-ci privilégie le modèle appliqué à de nombreuses entreprises publiques qui peut donner au Parlement un rôle central. Alors très important aussi, cette mesure qui tient beaucoup à cœur au rapporteur, en finir avec l'externalisation massive des programmes de France Télévisions et internaliser la production d'un certain nombre d'émissions, alors telles que C'est à vous, C'est ce soir et Crash Investigation, 3C.
Crash.
Oui, quand vous faites produire pour près d'un milliard d'euros par an de contenu du service public par des sociétés de production privée, ça s'appelle de la privatisation, estime le rapporteur, qui propose donc d'instaurer une règle des trois tiers, un tiers de production interne, un tiers de production réellement indépendante, c'est-à-dire de petits producteurs, et un tiers laissé à de grands champions français ou européens. Et on peut dire aussi que le rapport propose de réévaluer l'utilité de chacun des 53 véhicules de fonction dont bénéficient les cadres dirigeants de France Télévisions, et en particulier pour ceux basés dans des villes disposant d'un réseau de transport collectif particulièrement dense.
Paris,
voilà.
Par exemple. Alors, et quand dit la ministre de la Culture, qui a aussi la communication dans ses attributions ?
Ben oui, si elle convient qu'il faut réduire les dépenses, Catherine Pégard confie au Figaro, la priorité, c'est l'information. Alors, cela implique de faire de France Info une chaîne de référence et de renouveler l'offre en matière de débat politique, par exemple. Il y a à la fois un sujet d'excellence et d'efficacité de l'information. La piste de rapprochement de certaines entités est possible. Celui de France 3 ici est depuis longtemps sur la table. Il est urgent de multiplier les ponts entre les différentes entités du service public. C'est une question d'efficience. Et quand la journaliste lui demande s'il faudra réduire les divertissements et les jeux, la ministre répond « Ce n'est pas mon rôle de choisir ce qu'on doit garder ou pas, mais il est nécessaire de faire des économies. Et certains programmes seront touchés par les réductions budgétaires. Je fais confiance aux dirigeants du service public pour choisir ceux qui touchent le moins l'intérêt du public. Voilà, ça c'est à lire dans le Figaro. On verra si ça va traîner jusqu'aux élections présidentielles.
Et puis surtout, on se demande comment une ministre peut expliquer que son rôle n'est pas de choisir, parce qu'à quoi sert-elle sinon précisément à ça, à donner des orientations.
À donner de l'argent peut-être.
Voilà. De son côté, l'Express publie les bonnes feuilles d'un livre sur le pouvoir de Mohamed VI et les intrigues qui se sont nouées à la tête de l'État marocain.
Ah ouais, alors ça, c'est quand même incroyable, avec ce gros titre de l'Express à propos de la sortie de Fin de règne, l'essai du journaliste et ancien correspondant pour l'AFP au Maroc, un journaliste sérieux, Omar Brouksi, hein, B-R-O-U-K-S-Y, le livre choc sur le pouvoir chancelant de Mohamed VI. En réalité, un récit très informé sur les coulisses du régime à Rabat et ce qui attend l'héritier, le très prometteur prince Moulay El Hassan, 23 ans. Et Étienne Gérard raconte que ce dernier est resté très proche de sa mère. C'est très important parce que c'est un personnage clé, même si elle est absente en ce moment. La princesse Salma Benani, divorcée du roi depuis fin 2017. Alors, il est décrit comme donnant l'image d'un jeune homme qui, malgré une certaine timidité, n'est pas dépourvu de caractère. Alors, je vous encourage, mon cher Richard, je ne sais pas si vous êtes abonné, à la page qui lui est dédiée.
Moi, non, je le mais suis. J'ai lu un excellent article sur lui dans Politique Magazine.
Voilà, ah, bah, bien sûr. Et dans sa page dédiée, Prince Moulay Hassan, où on le voit souvent, comme le relate Étienne Gérard, comme son père, lorsqu'il était prince héritier, retirait sa main lorsque les dignitaires civils et militaires du régime se jettent sur lui pour la lui embrasser en guise de soumission. Mais qu'apprend-on dans ce dossier de l'Express et à travers les bonnes feuilles du livre qui paraît aux éditions du Nouveau Monde? D'abord, ce qu'on savait déjà, que l'actuel roi du Maroc est très malade, qu'il souffre. Alors ça y est, on a le nom de la maladie. Ça s'appelle la maladie de Hashimoto et puis la maladie de la bronchopneumopathie. Donc c'est une chronique obstructive, un mal qui affecte sa respiration et complique chaque effort physique. Alors Étienne Gérard confirme qu'il vit depuis plusieurs années, donc une longue partie de son temps à l'étranger, mais que dans cette atmosphère crépusculaire, comme il dit, qui n'empêche pas paradoxalement les succès diplomatiques, les intrigants s'épanouissent, les appétits se découvrent. Alors vous lirez de larges extraits du livre du journaliste marocain dans lesquels, alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a beaucoup de noms, on croise notamment celui qui a été choisi pour conseiller le prince héritier, retenez bien son nom, on le voit d'ailleurs souvent dans les déplacements du prince héritier, c'est l'industriel Mostafa Terram, qui est un patron, un des plus important patron au Maroc, patron de l'office chérifien des phosphates, c'est que le Maroc est premier pays producteur et exportateur de phosphates dans le monde, visé par une campagne de presse virulente, ou encore ce qu'on appelle là-bas le clan des Azaïtar, ces trois frères boxeurs proches de Mohamed VI, détestés par la famille royale ou certains conseillers du roi. Et dans l'entretien que publie l'Express, Omar Brouksi raconte que lorsque le roi est à l'étranger, Fouad El-Ima, là aussi un deuxième nom à retenir, son ami d'enfance, surnommé le vice-roi, prend le relais et c'est son conseiller le plus proche, celui qui a accès le plus facilement à Mohamed VI, c'est lui qui garde la maison en son absence. L'autre conseiller est très important, c'est Abdelatif Amouchi. Alors ça, c'est le directeur du renseignement extérieur, on en a souvent parlé, c'est l'homme le plus informé du Maroc, mais aucune décision n'est prise sans que Mohamed VI ne soit informé et sans qu'il l'ait validé. Voilà, vous lirez ces pages passionnantes dans le dernier numéro de l'Express, en vente jusqu'à jeudi.
Alors, et que peut-on lire d'autre dans la presse ce matin?
Alors, il y a plusieurs choses, hein, évidemment, la presse, surtout du lundi, alors, notamment un article dans l'Opinion sur l'Italie, qui veut relancer le nucléaire, mais ne sait toujours pas où enterrer ses déchets. D'ailleurs, Rome vient de renouveler son accord avec Paris pour maintenir jusqu'en 2040 sur le territoire français une partie des déchets radioactifs issus de ces anciennes centrales. Toujours dans l'Opinion, on apprend qu'à Saint-Josse, dans le Pas-de-Calais, que vous connaissez bien, un jeune éleveur de 27 ans, projette d'implanter un élevage de 8000 poulets label rouge, notamment pour fournir les cantines de la région. Vous savez que la France importe la moitié des volailles qu'elle consomme, et ce développement local, donc, pourtant, heurte des oppositions farouches sur place. Là aussi, c'est vraiment des querelles intestines. Toujours le même type de querelles qui oppose d'ailleurs des riverains, la mairie et les agriculteurs sincères. Et puis dans le Parisien, en page intérieure, on peut lire ce gros titre « Dévoiler son intimité, un choix stratégique pour conquérir le pouvoir. Donc, comme vous ne voulez pas conquérir le pouvoir, Richard, on restera calme sur votre intimité.
Merci.
Alors, ce papier est signé Alison Tassin, illustré par une photo sur laquelle on voit le couple Gabriel Attal assis à côté de son compagnon Stéphane Séjourné, puisque vous savez qu'ils se sont remis ensemble. Et on peut lire cette légende, une séquence personnelle qui vise à maîtriser sa communication avant de se mettre en marche vers l'Élysée. Alors, l'article se conclut par les mots d'un observateur de la vie politique. « Faire une campagne est un moment de vérité. On ne peut pas se cacher. C'est comme se promener nu dans la rue. »
Mais oui, et on n'attend que ça, que Gabi et Stéphie se promènent nus dans la rue ça, pour recueillir tous nos suffrages.
Je vous laisse responsable de vos propos, comme
voilà,
on dit.
que pensez-vous de l'intelligence du camarade Gabriel Attal qui s'affiche en une du point avec marqué « Je crois savoir comment présider la France ».
Alors, de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que quand il était Premier ministre, il était déjà très soumis au président Macron, puisqu'il ne pouvait rien faire sans son accord, même si parfois il y avait quelques petites paroles qui se détachaient. Là, on a l'impression qu'évidemment, il joue franc jeu, c'est la course avec Édouard Philippe, c'est le jeune chat face au Doberman, si j'ose dire, quoique la comparaison est un petit peu limitée.
Oui.
Et on ne sait pas où va aller cette course, parce qu'il n'y en aura qu'un. Il ne va pas y avoir Attal contre Philippe ou Philippe contre Attal.
Il n'en restera qu'un. On a l'impression d'être dans Highlander. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, exactement. Mais c'est ça. Alors, dans le Figaro, justement, il y a un long article justement sur ces batailles à la fois à droite, à gauche. Bon, c'est pire que tout. Et puis dans le centre, vous voyez, ce petit marais entre Xavier Bertrand et Attal, là, ce flou artistique. Voilà.
Et en même temps, on a appris qu'il y avait un pacte de non-agression qui avait été signé entre Gabriel Attal et Édouard Philippe.
Exactement.
Et ce sont des hommes politiques, on peut faire confiance à la foi qu'ils ont dans leurs propres paroles.
Et on peut penser aussi que si Édouard Philippe un jour accède à la haute autorité, il prendra Attal comme Premier ministre.
Voilà, donc, Gilles Brochard, vous, personnellement, malgré tout, ce déballage sentimentalo-politico-pipolo, etc., vous ne trouvez pas ça grotesque?
Est-ce que
véritablement le fait de voir Gabriel prendre la main de Stéphane va nous encourager à voter pour lui?
Je pense que ce n'est pas du tout sur ce plan-là qu'il faut raisonner, parce qu'il y aura toujours des gens qui s'opposeront, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où les hommes politiques prennent le devant sur les journaux People. On l'a vu avec Bardella, on l'a vu avec Attal, on l'a vu avec d'autres. Et ils préfèrent devancer les rumeurs ou devancer les articles en disant « ça va venir de ma part ». En fait, on devient un petit peu la presse, comme dans la presse anglaise, vous voyez. Parce qu'autrefois, on était assez protégés, finalement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un nouveau terrain de jeu et que comme aujourd'hui, il y a tous les réseaux sociaux et toute la compagnie de... Enfin, tout ce qui se passe entre TikTok et compagnie, donc les gens prennent les devants. Fut-il un homme politique ?
Merci Gilles, reste avec nous. Maïlys Clauzel, vous revenez avec une nouvelle presque aussi excitante que les flashs de tout à l'heure.
Oui, chers auditeurs, je vais vous parler d'une petite nouvelle qui est assez particulière pour moi, puisque ça se passe dans le Gard, donc dans mon département d'origine. Mais figurez-vous qu'à Galargues-le-Montieu, deux adolescents ont prêté main forte à la mairie, qui semble manifestement être adorée par les habitants. Donc ils prêtent main forte tout à fait gratuitement, même pendant les vacances, au maire de Galargues, qui apparemment a l'air d'avoir énormément de travail. Voilà, donc c'est une
genre d'initiative qu'on... Comment ça se manifeste?
Ils prêtent main forte et qu'est-ce qu'ils font? Ils portent les courses? Ils aident le maire dans ses dossiers administratifs?
C'est plutôt ça, dans les dossiers administratifs. Donc voilà, on voit que les jeunes sont intéressés par ce genre de travaux, donc oui.
Mais il y a certaines municipalités qui ont fait une sorte de, pas de parlement, mais de conseil des jeunes. Ça les initie au civisme, à leur rôle de citoyen. C'est pas mal aussi, c'est bien. Ils n'ont pas de pouvoir, c'est sûr, ils ont comme pouvoir consultatif. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un jeune de 20 ans peut peut-être connaître plus l'économie qu'un maire qui vient de...
PS.
Qui vient du...
Voilà, par exemple. un maire de gauche. Bonjour, Louis Rigaudière.
Bonjour à tous. Bonjour, Richard. Ravi de vous retrouver ce matin.
Nous aussi. Alors, dans votre zone libre.
Ah, vous me prenez un peu de cours. Hein. Vous aimez bien, Richard, le lundi matin. Mais je vais poser. Vous savez que Gilles Brochard adore les questions d'actualité. Mais là, alors, je vais vous
c'est
en poser
que
une. Mais...
Gilles passe son temps à torturer les étudiants journalistes et les questionnaires de culture générale.
Ah, il adore ça. Mais il a un plaisir presque sadique. compliques à trouver des questions parfois très compliquées. Mais bon, là je reste simple. Quelle émission des années 80 va renaître prochainement? Et quelle émission politique?
L'heure de vérité.
Exactement, bravo. Bah voilà, c'était pas trop dur. C'était bien.
Animé par François-Henri de Virieux, qui pour moi était un des plus grands journalistes. Alors quand j'avais 14 ans, je lisais ses articles dans un magazine qui n'existe plus, un magazine économique qui s'appelait L'Information.
Ouais.
Voilà, c'est une petite information pour vous.
Non, mais c'est bien.
C'est un peu de votre intimité. À 14 ans, vous lisiez la presse économique. Voilà. Gabriel, si tu as envie de prendre des leçons pour devenir président de la République, c'est beaucoup plus crédible.
Moi, j'étais au Castor Junior plutôt,
alors,
mais bon, voilà.
Alors, est-ce que Franck peut répondre à cette question? Quel était le générique de L'Heure de Vérité?
Alors, il faut le diffuser dans ce cas-là, parce qu'on
va pas le chanter. Il me reste 2 minutes, je vais vous trouver ça.
C'est un extrait des Pink Floyd, si je ne m'abuse.
C'est vrai? Ah bah alors là, je suis spécialiste là-dessus.
Non, ça c'est plutôt les Beatles, ça.
Non, c'est pas les Beatles.
Oui, si j'ai le générique en tête, mais absolument pas Pink Floyd.
On n'a plus qu'à espérer que Franck le retrouve, parce que ce sera beaucoup plus
et ça se terminait.
Voilà, c'est ça. C'est une partie instrumentale de Live and Let Die de Paul McCartney, monsieur.
Paul McCartney, pardon.
Voilà, c'est pas les Pink Floyd.
On coupera au montage.
Non, on va le laisser au contraire.
Et alors, une dernière chose, à la fin,
je vais écouter le générique.
Ah oui, je vais vous le. Voilà, quelques secondes.
Très bon générique. Très, très bon générique. Et donc, l'invité. Signé le livre d'or à la fin, il y avait un gros plan de la caméra.
Oui, très connu ce générique. Oui.
Voilà.
Et ça a bercé notre enfance.
Mais alors, je vais peut-être vous choquer, mais moi, quand j'entends ce générique, je pense aux Inconnus et pas à L'Heure de Vérité.
Vous êtes un côté.
Mais oui, parce parodique. Que c'est davantage de ma génération et que, évidemment, vous savez que les Inconnus ont parodié cette émission de manière absolument magistrale et que moi, j'ai davantage les Inconnus que les émissions politiques. Mais je sais que maintenant que j'ai un compte Ina Madeleine, je ne sais pas si vous vous rappelez.
Et je vais vous dire une chose. Si vous regardez L'Heure de Vérité avec le Comte de Paris,
le grand-père de la caméra.
Je le connais pas assez bien, moi.
Vous me voyez tout le temps dans l'émission, puisque j'étais invité à l'époque. Il avait sorti un livre sur la correspondance avec le général de Gaulle, et j'avais été invité par l'éditeur, et je suis derrière, et on me voit tout le temps.
Mais c'est génial. Je vais retrouver ça tout de suite, parce que moi j'ai un compte Ina Madeleine qui me permet de revoir toutes ces archives. Donc je vais vous retrouver de ce pas.
Et je suis à côté de mon cousin Nicolas. Voilà.
Alors la prochaine fois, je vous propose qu'on projette cet extrait pendant que vous siffloter Paul McCartney.
Dès que Louis le trouve, on le met dans la machine.
Ah, mais tout de suite.
Je l'aime, moi.
Là, tout de suite. Il reste 19 secondes, ça va être chaud.
Je garantis rien pour les droits d'auteur, mais en tout cas, c'est clair que je vais faire des recherches.
Merci pour la question.
Eh bien, merci beaucoup, Gilles Brochard. Merci, Louis. Merci, Maïlys. Et bien sûr, voilà, c'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Il reste un détail. On vous a un peu parlé argent avec notre grand entretien. Eh bien, sachez que Radio Courtoisie a besoin de vous pour pouvoir exister.
Pour exister, Radio Courtoisie n'a que ses auditeurs, ceux qui l'écoutent tous les jours, ce sont ceux qui les financent, qui la financent plutôt. Alors s'il vous plaît, rejoignez la grande famille de Radio Courtoisie en faisant un don en ligne dès maintenant sur soutenir.rc.fr. Soutenir.rc.fr, c'est l'adresse de notre site internet et surtout de la page de don. Un grand merci d'avance.
Merci Franck. Et tout de suite, on rediffuse le sujet de ce matin. Jeune garde dissoute, est-ce la fin de l'impunité pour l'extrême gauche? C'était un sujet avec Bertrand Saint-Germain.
Ligne droite. Debout les Français.
Et debout les Français, c'est avec Bertrand Saint-Germain, docteur en droit. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons parler de la dissolution de la jeune garde. Ça y est, donc il y avait un procès en appel. La justice a tranché. Non, la jeune garde restera bien dissoute. Maïlys le rappelait tout à l'heure, ça fait pleurer les gauchistes et surtout Raphaël Arnaud qui explique que ses camarades n'ont pas pu dire au revoir à la jeune garde. Rappelons que ça faisait quand même plusieurs mois que l'appel était en cours, qu'ils avaient même créé une association pour faire en sorte de lutter contre justement l'appel qui avait été interjeté, donc autrement dit, il ment là aussi. Que pensez-vous de cette dissolution? Est-ce que c'est la fin de l'impunité pour l'extrême-gauche?
Une fleur, une hirondelle ne fait pas le printemps. Disons, ce que l'on peut dire, c'est qu'au regard du passif de la jeune garde et de ses multiples agressions, revendications d'agression, son discours... tous ces éléments faisaient quand même un dossier extrêmement lourd, un dossier à charge très fort, et il était déjà au départ difficile d'imaginer autre chose que cette dissolution, compte tenu de la jurisprudence générale en la matière. Et puis, évidemment, il y a eu l'affaire Quentin Doranque, où eh bien des responsables de la Jeune Garde sont impliqués directement dans l'agression et dans les coups mortels ayant conduit à la mort de Quentin. Donc, au regard de tous ces éléments, il semblait difficile que le Conseil d'État fasse ce qu'il avait pu faire pour les soulèvements de la Terre ou d'autres associations de la mouvance d'extrême-gauche. Voilà, le dossier était si lourd qu'il semblait vraiment difficile, voire impossible, qu'il y ait autre chose que cette décision d'annulation.
Alors,
voilà, ça, c'est la première chose que l'on peut relever d'un point de vue technique sur cette dissolution. Alors, est-ce que ça fait le printemps ? Est-ce qu'il faut y voir un changement dans la pratique des autorités publiques, et spécialement celle du juge ? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour différentes raisons. D'abord parce que ces juges qui ont validé la dissolution de la Jeune Garde sont les mêmes que ceux qui, finalement, avaient considéré que la dissolution des soulèvements de la Terre n'était pas utile. Ce sont les mêmes qui ont procédé à la dissolution de près d'une vingtaine d'associations nationalistes depuis une dizaine d'années. Donc, la ligne générale n'a pas changé. Mais il faut revenir dessus, la Jeune Garde était un groupuscule violent, appelant à la violence, même si on peut considérer, et c'était l'une de ses lignes de défense, que lorsqu'on se présente comme un mouvement révolutionnaire, il est normal d'avoir un discours brutal. Quand on lit les pamphlets de 1789, on n'appelait pas à la récolte des champignons et des fleurs au printemps. Voilà. Donc on a quand même une association qui était extrêmement violente dans son discours, dans ses actes, dans ses revendications, qui plus est, une situation revendiquée, comme je l'ai dit, par l'affaire de Doranque. Donc, la dissolution était inéluctable, me semble-t-il.
Alors, cette dissolution paraissait en effet politiquement impossible à ne pas prononcer. Voilà, vous l'avez rappelé, entre le moment où la première dissolution est prononcée, donc plusieurs mois d'appel et de nouvelles instructions, et la mort de Quentin Doranque survient. Quoique LFI et le fondateur de la Jeune Garde, donc le député LFI, Raphaël Arnaud, ait pu dire, il était évident que la Jeune Garde était impliquée, notamment les attachés parlementaires de Raphaël Arnaud, qui sont en ce moment soumis à la justice et pour certains d'entre eux internés, sauf ceux évidemment qu'il a déjà rembauchés à l'Assemblée nationale parce que eux n'étaient pas derrière les barreaux. Donc il était compliqué pour la justice de dire si quelqu'un est mort, on va faire comme si de rien n'était. Néanmoins, vous l'avez rappelé, ce sont les mêmes juges qui avaient décidé que les soulèvements de la Terre ne pouvaient pas, n'avaient pas à être dissous, une dissolution demandée par Bruno Retailleau, alors que les soulèvements de la Terre sont eux aussi des activistes violents, ayant attaqué des policiers, ayant menacé d'actions violentes, ayant d'ailleurs eux-mêmes mis en œuvre ces actions violentes, c'est-à-dire attaque des forces de l'ordre, destruction de biens publics et de biens privés. Donc, la dissolution de la Jeune Garde, on a presque l'impression que c'est une espèce de concession à un moment qui est le moment de Doranque, c'est-à-dire cet assassinat qui est difficile de passer sous silence, mais qu'au contraire, et ça se sent dans les déclarations de Laurent Nunez, on va continuer à être plus méchant avec l'extrême droite, entre guillemets, avec les nationalistes, avec les identitaires, qu'avec la gauche qui reste parfumée d'un certain parfum de vertu.
Oui, je crois que c'est assez net. D'abord, il faut rappeler que la mise en parallèle de ces violences ne se justifie pas réellement. Quand on regarde le discours de la gauche radicale, l'appel à la violence venant de la droite patriote, nationaliste, identitaire, n'est pas réel. Il y a des gens issus de cette mouvance qui peuvent être pris dans des rixes, dans des violences, mais ce ne sont pas directement ces mouvements qui appellent à la violence physique. Alors que dans le cadre de la Jeune Garde. Hein. Alors, la Jeune Garde, déjà, n'était pas une association en tant que telle, c'est ce qu'on appelle un groupement de faits, c'est-à-dire c'est des gens qui, techniquement et matériellement, s'associaient pour réaliser des choses sans avoir recours au statut d'association. Mais quand on va voir ce que dit le Conseil d'État, il dit bien que la Jeune Garde a directement mené et a incité à commettre des agissements violents de confrontation, d'exclusion physique de l'espace public. Déjà, et le Conseil d'État le dit bien, par le comportement de ses membres. Et il faut rappeler que Raphaël Archenault, dit Arnaud, a lui-même été condamné pour violence volontaire. Donc ici, on n'est pas dans une simple violence sublimée, idéalisée, qui ne serait que une violence symbolique du discours. Non, on a bel et bien des gens qui ont été agressés, qui ont été violentés, qui ont été blessés par le chef de la Jeune Garde lui-même, par ses adjoints les plus directs, et la personne même de son assistant parlementaire, de celui dont il a fait son assistant parlementaire, qui était son adjoint, qui est maintenant emprisonné et présumé innocent, bien sûr, dans l'affaire Quentin de Hanck, montre bien qu'on est au-delà d'un simple discours. On est vraiment dans une violence réclamée, revendiquée. Et le Conseil d'État ajoute bien que les comptes sur les réseaux sociaux de la Jeune Garde se réjouissaient et se félicitaient d'agressions de personnes issues de la droite identitaire, patriote, notant, dit le Conseil d'État, que ces actions étaient, quand les vidéos n'étaient pas directement le fait de la Jeune Garde, celle-ci les relayait, les likait, les partageait, et donc c'était bien un soutien explicite à ces actions, lorsque ce n'était pas le fait de la Jeune Garde directement. Et d'ailleurs, aucune réaction relève en le Conseil d'État à ces actes violents pour les mettre en cause. On a là, effectivement, tout était réuni pour cette dissolution. Mais il faut ajouter que plusieurs autres associations s'étaient joints à la Jeune Garde pour la défendre. On avait ainsi la Ligue des droits de l'homme qui soutenait la Jeune Garde dans cette procédure. On avait également le très fameux groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés. Ces associations s'étaient joints à la Jeune Garde pour protester contre le décret de dissolution. Et il y avait également le très marxiste syndicat des avocats de France, qui avait cherché à se mettre à la procédure aux côtés de la Jeune Garde. Donc on a évidemment, et d'ailleurs, c'est assez révélateur des mœurs de cette famille politique. Finalement, quand l'un des leurs est touché, ils se soutiennent tous pour le défendre, quoi qu'il ait pu faire. On est loin d'une action purement symbolique de contrôle de la frontière dans les Alpes, ou de monter mettre des fumigènes sur le toit de la mosquée de Poitiers, comme avaient fait les identitaires il y a une quinzaine d'années. Non, on a ici des actes violents, revendiqués, et finalement, sans même chercher à réfléchir, toute l'extrême-gauche se met derrière l'un des siens.
L'extrême-gauche est même moins que l'extrême-gauche, parce que la Ligue des droits de l'homme, évidemment, c'est une association gauchiste, mais elle n'est pas réputée être aussi à gauche, justement, que la Jeune Garde ou ses groupuscules. Ce sont des associations qui ont pignon sur rue, et vous avez raison de le souligner. Par principe, voilà, dès qu'un mouvement de gauche est attaqué, quoi qu'il ait pu dire, quoi qu'il ait pu faire, voilà, il y a un mouvement communautariste, si j'ose dire. Voilà, il y a la gauche chasse en meute et elle se retrouve derrière lui. Bertrand Saint-Germain, lorsqu'on regarde la dissolution de la Jeune Garde, évidemment, on est satisfait. En même temps, on sait bien qu'il y a d'autres associations gauchistes, et vous avez eu raison de le souligner, que le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, n'a pas décidé de dissoudre malgré les décisions, malgré les demandes du ministère de l'Intérieur. Il y a des associations qui ont été dissoutes et qui sont plutôt des associations de droite, et Laurent Nunez vient d'expliquer au Monde non seulement qu'il n'avait pas de problème avec l'islam en France, mais qu'il comptait déposer une proposition de loi contre le séparatisme, et notamment, là, il cite l'ultra-droite comme étant un mouvement séparatiste, c'est-à-dire qui porte des valeurs contraires à celles de la République, et donc il espère que sa nouvelle loi, qui ratissera beaucoup plus large que Bruno Retailleau, sous-entendu, voilà, on ne va pas ne viser que les musulmans qui commettent des assassinats en France et qui font régner une certaine terreur, ces musulmans-là, on va viser aussi tous les nationalistes parce qu'il faut équilibrer la balance.
Oui, c'est ce que l'on voit depuis une dizaine d'années, où de toute façon, il y a beaucoup plus d'associations dites radicales, de droite, patriotes, identitaires, ou que sais-je, qui sont visées par le gouvernement et par le ministère de l'Intérieur. Alors même, je le rappelle, que il ne s'agit le plus souvent que de groupuscules qui n'ont pas de réelle audience nationale, qui parfois peuvent se réfugier dans des images, dans un discours qui peut sembler radical ou apparaître d'un autre temps, mais on n'a pas d'acte réel. Si l'on peut-être quelques rixes à la sortie de bars dans des établissements nocturnes, mais on n'a pas un discours systématique qui enjoint à l'agression. Si on se souvient d'un son d'agression, d'interdiction, des mouvements d'ultra-droite ont été interdits purement et simplement pour leurs idées. Si on revient à une dissolution qui est maintenant lointaine, mais c'était l'une des plus symboliques, Génération Identitaire, le Conseil d'État dit bien que le fait de critiquer l'immigration en tant que tel suffit à justifier l'interdiction. Donc, oui, cet État est devenu finalement notre ennemi, parce que il y a dans le camp de droite en général une sorte de révérence pour l'État. Quand on parle de l'État, on pense... toute chose égale par ailleurs, et même si le mot ne correspond pas, on pense à Rome, on pense à Louis XIV, on pense à Napoléon, on pense même à la Troisième République, à une époque où il y avait un État conquérant et fort. Simplement, cet État est un nid dans lequel un coucou s'est introduit, et l'État est aujourd'hui dirigé par des gens qui ne défendent pas le bien commun, par des gens qui ne défendent pas la France, les Français et leurs intérêts. Il y a finalement une oligarchie qui s'est appropriée l'État et qui l'utilise à son profit économique, à son profit financier, et qui dénonce et pourchasse tous ceux qui s'opposent à lui. Aujourd'hui, l'État, cet État, est notre ennemi. Il faut bien en avoir conscience. Ce n'est pas parce que, devant la gravité des faits, ils ont accepté de dissoudre la Jeune Garde qu'il faut croire qu'il y a le moindre changement de direction dans le combat principal de cet État, qui est une opposition à tous ceux qui s'opposent à ces ferments de décadence.
Eh bien, merci beaucoup Bertrand Saint-Germain. Voilà, le camp de la droite peut s'attendre à être puni, puisque l'extrême gauche l'a été. Mais merci beaucoup et à bientôt sur Radio Courtoisie.
Merci beaucoup, bonne fin de journée à vous.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, avec Richard de Seize.
Et avec toute l'équipe de la matinale, merci beaucoup d'avoir été avec nous, cher public, et merci donc aux auditeurs de nous avoir accompagnés. Merci surtout à tous ceux qui nous donnent, voilà, vous êtes un peu plus de 18 000, n'hésitez pas, c'est un défi. Passons à 19, passons à 20, passez de 1 à 2 euros, passez de 2 à 5.
Oui, cher public, c'est à vous que je m'adresse pour vous demander, vous suggérer, même vous implorer de faire des dons pour que Radio Courtoisie vive, que Radio Courtoisie continue à prêcher sa bonne parole, qu'elle vous aide à défendre vos idées. Nous vivons en simple indépendance, c'est-à-dire que seuls ceux qui nous écoutent payent, et encore pas tous ceux qui nous écoutent, et c'est bien le problème, vous n'êtes que 2%, alors un petit pourcent de plus et Radio Courtoisie est sauvée pour longtemps. Soutenir.rc.fr, soutenir.rc.fr, un grand merci d'avance.
Voilà, mot dièse sauvé pour longtemps, et avec tout cet argent, on fait d'excellentes émissions comme celle qui vient juste après.
Juste après, dans quelques secondes et en direct, Nicolas Dupont-Aignan, invité d'Albert Salon pour le Français en partage. Il sera bien sûr question de la présidentielle 2027. À midi, en direct aussi, le Libre Journal de l'École, dirigé par Florence Leroux et Hervé Roland, où il sera question de la belle aventure de l'Académie musicale de Liesse avec sa directrice et des lycéens. 16h, le dernier sanglot de Daniel Thierry avec Populaire, vous avez dit Populaire. populaire de Renaud Dourges, 16h30 en toute bonne foi de France Andrieux, 17h culture et politique de Richard Haddad et Pierre Henry. À 17h30, restons courtois, alerte sur les placements d'enfants avec Jean-Claude Gianotta pour le grand entretien de Pierre-Alexandre Bouclet. Et puis également le rendez-vous de la réinformation. 19h30, Richard de Sèze reçoit Stéphane Barsac, écrivain pour le Libre Journal du lundi soir, avec cette question: que voit-on en regardant une œuvre d'art? Et puis à 21h30, la soirée musicale en compagnie de Virginie, les grandes histoires humaines racontées par les musiques de ballet.
Eh bien, merci beaucoup Franck. Et nous, demain, nous reviendrons sur la dissolution de la Jeune Garde, mais plus longuement, avec Pierre Gentillet. Et nous parlerons bien sûr du rapport à l'oncle avec Valentin Gore, journaliste à Valeurs Actuelles.
Bonne journée à tous et à demain 7h.